Bonjour à tous et à toutes. Ça va ? Ouais. Voilà, parfait. Merci Marcos pour cette introduction. C'est vrai, dans 3 semaines, c'est Pâques. Et depuis, enfin voilà, certaines années, on a l'habitude dans cette église d'avoir une petite série avant Noël, une petite série de l'Avent, comme on l'appelle. Mais on n'a pas forcément l'habitude dans les églises de faire une série de Pâques. Ce qui est un petit peu surprenant parce qu'en fait, la grande fête pour nous les chrétiens, c'est pas Noël. Bien sûr, Noël c'est important, c'est l'incarnation, c'est un moment hyper fort dans l'histoire du salut. Mais la grande fête, c'est la fête de Pâques. C'est vraiment le point culminant du plan de Dieu pour l'humanité. Et on s'est dit, voilà, ça vaut la peine de prendre quelques dimanches, de faire une petite pause pour relire, se souvenir et prêcher sur ce qui s'est passé à Pâques. Qu'est-ce que c'est cette fête de Pâques ? C'est quoi le sens originel de cette fête ? J'essaie de donner un petit titre à cette série de Pâques. Donc j'ai noté ici, hein, Pâques, c'est quoi ? C'est une mort qui donne la vie et c'est une vie qui détruit la mort. En fait, Pâques, il y a deux événements. Hein. Il y a la crucifixion, c'est ça, une mort qui donne la vie. Jésus-Christ meurt pour donner la vie. Et puis, le surlendemain, la résurrection. Une vie, Jésus qui revient à la vie, une vie qui détruit la mort. Une mort qui donne la vie et une vie qui détruit la mort. Et on va essayer de voir un petit peu dans les textes bibliques, dans les textes originaux, qu'est-ce que ça signifie, cet événement de Pâques. Je vous annonce tout de suite un petit peu le programme. On a prévu 4 prédications pour se souvenir de qu'est-ce que c'est Pâques. 4 prédications dans l'évangile de Matthieu. Donc on va lire Matthieu 26, 27 et 28 sur 4 prédications, sur 4 dimanches, pour revoir un petit peu ça. Et puis je vous annonce tout de suite le programme. On va voir d'abord ça, qu'avant sa mort, Jésus explique le sens de sa mission. Dimanche prochain, ce sera David Niblack qui va nous enseigner, on va voir avec lui qu'avant sa mort, Jésus subit un procès injuste. Le dimanche suivant, ce sera Christian Pochung qui va nous enseigner, qui va nous montrer qu'au moment de sa mort, Jésus accomplit sa mission. Et puis le dimanche de Pâques, le dimanche où on va se souvenir de la résurrection, ce sera moi de nouveau qui vais parler de « Après sa mort, Jésus revient à la vie ». J'espère que voilà, on soit tous encouragés par ces prédications et qu'on puisse tous entrer vraiment dans une période de méditation et une période où on va être centré sur ces événements de Pâques. Ce matin, donc, on va voir le premier de ces 4 thèmes. Hein, avant sa mort, Jésus explique le sens de sa mission. Jésus, il est venu sur terre avec une mission en tête. Jésus n'a pas subi sa vie. Jésus n'a pas subi son procès. Jésus n'a pas subi la douleur. Et Jésus n'a pas subi sa mort. Bien sûr, il a vécu toutes ces choses-là. Bien sûr, il a souffert authentiquement toutes ces choses-là. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il n'a pas subi passivement toutes ces choses-là. Jésus l'a choisi. Il a voulu s'incarner. Il a voulu vivre la vie humaine. Il a voulu souffrir, subir un procès injuste. Il a voulu mourir. Et même si c'est vrai qu'avec nos yeux humains, on pourrait avoir l'impression que c'est plutôt une coalition des autorités juives et des autorités romaines du 1er siècle qui ont pris la décision de faire souffrir et d'exécuter Jésus. Mais en fait, la réalité, c'est qu'ultimement, c'est lui qui donne sa vie. C'est Jésus qui donne sa vie. Il la donne de son plein gré. il la donne pour nous sauver. Et on voit que, justement, dans ce texte qu'on va lire tout de suite, Jésus explique le sens de sa mission. Ça nous montre qu'il n'est pas en train de subir, il n'est pas dépassé par les événements et de subir une condamnation à mort. Bien au contraire, Jésus décide de son plein gré d'avancer vers cette condamnation. Dans ce texte de ce matin, donc c'est Matthieu chapitre 26, les versets 1 à 35. Vous pouvez les chercher dans vos Bibles si vous le désirez, ou bien sinon ils seront affichés là à l'écran. On va voir quatre scènes, quatre tableaux, quatre moments qui précèdent le procès de Jésus et quatre moments durant lesquels Jésus en fait va expliquer pour ses disciples et pour nous aussi, 2000 ans plus tard, le sens de ce qu'il est venu faire, le sens de sa mission. On va voir ces quatre tableaux et puis j'ai fait quatre slides différentes pour que vous puissiez bien voir ces quatre moments distincts. Ça marche ? Je vais donc lire tout de suite dans l'évangile de Matthieu, chapitre 26, les versets 1 à 35. Premier tableau. Lorsque Jésus eut fini de donner toutes ses instructions, il dit à ses disciples, « Vous savez que la Pâque a lieu dans 2 jours et que le Fils de l'homme sera arrêté pour être crucifié. » Alors les chefs des prêtres, les spécialistes de la loi et les anciens du peuple se réunirent dans la cour du grand prêtre appelé Caïphe et ils décidèrent d'arrêter Jésus par la ruse et de le faire mourir. Cependant, ils se dirent que ce ne soit pas pendant la fête afin qu'il n'y ait pas d'agitation parmi le peuple. Premier tableau. Maintenant, deuxième tableau. Comme Jésus était à Béthanie, dans la maison de Simon le lépreux, une femme s'approcha de lui avec un vase qui contenait un parfum de grande valeur. Pendant qu'il était à table, elle versa le parfum sur sa tête. À cette vue, les disciples s'indignèrent et dirent « À quoi bon un tel gaspillage ? On aurait pu vendre ce parfum très cher et donner de l'argent aux pauvres. » Le sachant, Jésus leur dit, « Pourquoi faites-vous de la peine à cette femme? Elle a accompli une bonne action envers moi. En effet, vous avez toujours des pauvres avec vous, mais vous ne m'aurez pas toujours. En versant ce parfum sur mon corps, elle l'a fait pour mon ensevelissement. Je vous le dis en vérité, partout où cette bonne nouvelle sera proclamée dans le monde entier, on racontera aussi en souvenir de cette femme ce qu'elle a fait. » Deuxième tableau. On passe à la suite. Troisième tableau. Alors, l'un des 12, appelé Judas l'Iscariote, alla vers les chefs des prêtres et dit, « Que voulez-vous me donner pour que je vous livre Jésus ?» Ils lui payèrent 30 pièces d'argent. Dès ce moment-là, il se mit à chercher une occasion favorable pour trahir Jésus. Le premier jour des pains sans levain, les disciples s'adressèrent à Jésus pour lui dire, « Où veux-tu que nous te préparions le repas de la Pâque ?» Il répondit, « Allez à la ville, chez un tel, et vous lui direz, le maître dit, mon heure est proche. Je célébrerai la Pâque chez toi avec mes disciples. » Les disciples firent ce que Jésus leur avait ordonné et préparèrent la Pâque. Le soir venu, il se mit à table avec les 12. Pendant qu'ils mangeaient, il dit, « Je vous le dis en vérité, l'un de vous me trahira. » Ils furent profondément attristés. Et chacun se mit à lui dire, « Est-ce moi, Seigneur ?» Il répondit, « Celui qui a mis la main dans le plat avec moi, c'est celui qui me trahira. » Le Fils de l'homme s'en va, conformément à ce qui est écrit à son sujet. Mais malheur à l'homme par qui le Fils de l'homme est trahi. Mieux vaudrait pour cet homme qu'il ne soit pas né. Judas, celui qui le trahissait, prit la parole et dit, « Est-ce moi, maître ?» Jésus lui répondit, « Tu le dis. » Puis quatrième et dernier tableau de ce texte, je vous le lis. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain et prononça la prière de bénédiction. Puis il le rompit et le donna aux disciples en disant, « Prenez, mangez, ceci est mon corps. » Il prit ensuite une coupe et remercia Dieu. Puis il la leur donna en disant, « Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de la nouvelle alliance qui est versé pour beaucoup pour le pardon des péchés. Je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne jusqu'au jour où je le boirai de nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. » Après avoir chanté des psaumes, ils se rendirent au mont des Oliviers. Alors Jésus leur dit, « Vous trébucherez tous cette nuit à cause de moi, car il est écrit, je frapperai le berger et les brebis du troupeau seront dispersées. Mais après ma résurrection, je vous précéderai en Galilée. » Pierre prit la parole et lui dit, « Même si tous trébuchent à cause de toi, ce ne sera jamais mon cas. » Jésus lui dit, « Je te le dis en vérité, cette nuit même, avant que le coq chante, trois fois, tu me renieras. » Pierre lui répondit, « Même s'il me faut mourir avec toi, je ne te renierai pas. » Et tous les disciples dirent la même chose. Voilà jusqu'ici la lecture de la parole de Dieu. On va maintenant passer par ces quatre tableaux et on va essayer de voir un petit peu ce que Jésus nous explique de sa mission. Là, je suis revenu sur le texte du premier tableau. Et on peut dire ici, c'est que par le calendrier, Jésus explique le sens de sa mission. Par le calendrier, Jésus explique le sens de sa mission. J'aimerais mettre juste l'accent sur une phrase que Jésus a dite dans ce passage, celle-ci. Voici, vous savez, pardon, que la Pâque a lieu dans 2 jours et que le Fils de l'homme sera arrêté pour être crucifié. Jésus avait été clair avec ses disciples. Hein. Il leur avait dit à plusieurs reprises qu'il allait être mis à mort. Hein. Il avait annoncé déjà bien à l'avance que le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour beaucoup. Mais maintenant, Jésus insiste sur le calendrier. Jésus meurt à Pâques. Il faut expliquer un petit peu qu'est-ce qui se passe ici. En fait, la Pâque juive existait depuis déjà bien longtemps. Déjà 1500 ans avant les chrétiens, les juifs célébraient la Pâque. Mais qu'est-ce que les juifs célébraient ? La Pâque juive avait été instaurée au moment de la libération du pays d'Égypte. Le peuple juif, qui ne s'appelait pas encore le peuple juif à cette époque-là, mais le peuple hébreu, avait été esclave en Égypte pendant plusieurs siècles. Et après un long et difficile esclavage, Dieu les a libérés de la servitude par toute une série de miracles. Vous pouvez lire ça dans le livre de l'Exode. Le dernier miracle, le plus terrible de tous, ça a été la mort des premiers-nés dans toute l'Égypte. Mais le peuple juif, le peuple hébreu, a été épargné à condition que les familles sacrifient un agneau et qu'elles badigeonnent les contours de la porte de leur maison avec le sang de cet agneau. Et en fait, pour se souvenir de cette libération, qui est un petit peu comme l'événement fondateur du peuple hébreu, pour se souvenir de cette libération, Dieu a ordonné qu'on commémore année après année, la fête de la Pâque. La Pâque juive, en quelque sorte, c'est donc le souvenir, la fête du souvenir de la libération de l'esclavage égyptien. Et puis, 1500 ans plus tard, Jésus choisit de mourir à la même date, le jour de la commémoration de cette libération. Clairement, ce n'est pas un hasard. Clairement, c'est intentionnel dans la tête de Jésus. Jésus est en train de nous faire passer un message par son choix de calendrier. Il est en train de dire à ses disciples et à nous aussi, il est en train de dire, ce qui se passe maintenant est similaire à ce qui s'est passé il y a 15 siècles en arrière. Il est en train de dire, maintenant aussi, il y a une libération qui est en jeu. Il est en train de dire, maintenant aussi, il y a un sacrifice qui va être offert. Jésus est très clair. Hein. Il annonce sa mission par le calendrier même. Il est en train de dire à ses disciples et à nous aussi qu'il va libérer son peuple de l'esclavage du péché. Un esclavage encore bien plus terrible que l'esclavage égyptien. Il va libérer son peuple de l'esclavage du péché. Et là aussi, il va offrir un sacrifice. Un sacrifice bien plus important qu'un agneau qui peut peut-être couvrir le péché ou quelque chose comme ça. Il va offrir sa propre vie en rançon pour son peuple. Et c'est incroyable de voir que Dieu, dans sa souveraineté, a prévu deux événements à 15 siècles d'intervalle. Il a fait en sorte que ces deux événements soient comme connectés en tombant le même jour de l'année. Dieu avait tout prévu. Il a donné la fête juive pour un petit peu préfigurer la grande libération du péché qui interviendrait 1500 ans plus tard. Donc par le calendrier, Jésus nous annonce deux choses ici. Il nous annonce le sacrifice, son sacrifice, et la libération du péché. Par le calendrier, Jésus explique le sens de sa mission. Deuxième tableau. Par l'attitude d'une femme, cette fois, Jésus explique le sens de sa mission. Par l'attitude d'une femme, Jésus explique le sens de sa mission. On a cette femme qui verse du parfum sur Jésus, on a des disciples qui réagissent assez mal à cette situation. Et en fait, franchement, on peut les comprendre. Moi, je trouve que dans un sens, ils ont quand même une réaction qui est louable d'une certaine façon, même s'ils ne comprennent pas tout l'enjeu de ce qui est en train de se passer. En tout cas, on n'aurait probablement pas fait mieux qu'eux. Mais ce qui m'intéresse maintenant, ce n'est pas la réaction des disciples, c'est ce que Jésus dit dans cette situation. Parce que Jésus communique quelque chose par la réaction de cette femme. De nouveau, je mets juste l'accent sur une phrase. En versant ce parfum sur mon corps, elle l'a fait pour mon ensevelissement. De nouveau, Jésus, d'une manière hyper claire, annonce sa mort. Par le calendrier, Jésus avait annoncé qu'il allait se sacrifier, qu'il allait libérer. Et maintenant, par l'histoire de ce parfum et de cette femme, Jésus annonce d'autres choses, d'autres éléments. On a un parfum très cher qui est versé sur lui. On a ses disciples qui ont cette réaction honorable. Ils signalent à Jésus le fait qu'ils auraient préféré vendre ce parfum pour mener une action sociale avec le produit de la vente. Mais Jésus les reprend. Il leur dit que ce que cette femme a fait est bien. Pourquoi ? Parce que sa mort a plus de valeur qu'un parfum. Parce que sa mort a même plus de valeur qu'une action sociale. Jésus est en train de montrer à ses disciples que sa mort est absolument centrale. Sa mort a plus de valeur que tout. De nouveau ici, je crois que Jésus nous communique deux idées par la réaction de cette femme et en réagissant à la réaction de cette femme. Premièrement, il est en train de communiquer l'idée que sa mission a une valeur extrême. Ce qui va se passer, enfin, il est en train de dire à ses disciples, mais ce qui va se passer, ce que vous allez vivre dans les prochaines heures, les prochains jours, est tout simplement grandiose. Plus grand que vous pourriez l'imaginer, plus grand qu'une immense action sociale. Et puis la deuxième chose qu'il est en train de leur dire, c'est que sa mort, sa mission est prioritaire à l'extrême. Elle a une grande valeur, mais elle a aussi une priorité totale. Aucun programme social, aussi beau et aussi enthousiasmant soit-il, n'égale la mission de Jésus. C'est important d'aider les pauvres, c'est vrai. Il y a beaucoup de textes bibliques qui nous le disent. Mais ce que Jésus est venu accomplir à Pâques, il y a 2000 ans, est encore infiniment plus important. Et c'est logique, en fait. C'est logique parce que Jésus est venu nous délivrer du péché. Le péché, alors c'est un mot qui peut peut-être paraître un peu archaïque si vous n'avez pas l'habitude de ce mot, mais le péché, c'est un mot qui parle de notre tendance naturelle à être rebelle contre Dieu. Notre tendance naturelle à faire ce qui déplaît à Dieu. Le péché, c'est ce qui nous condamne pour l'éternité. Mais Jésus, on a vu juste avant, qui nous libère de ce péché, qui nous offre le pardon par sa mort. Et on se rend compte là que rien n'a plus de valeur, rien n'est plus prioritaire que la mission de Jésus. Par l'attitude de cette femme, Jésus montre à ses disciples que ce qui va se passer est grand. Ils vont être les spectateurs du plus grand miracle de l'histoire du monde. La valeur du cadeau qu'ils vont recevoir est sans pareil. La priorité de la mission est totale. Parmi toutes les grandes missions gouvernementales, parmi toutes les grandes urgences sociales, parmi tous les grands plans humanitaires, la mission de Jésus dépasse tout parce qu'elle concerne non pas juste cette vie, mais la vie éternelle. Par l'attitude d'une femme, par l'attitude de cette femme, Jésus explique le sens de sa mission. On passe au troisième tableau. On revient un petit peu sur le texte. Ici, par la trahison de son ami, Jésus explique le sens de sa mission. Par la trahison de son ami, Jésus explique le sens de sa mission. Après ce beau tableau de la femme qui verse le parfum sur Jésus, on a un tableau sombre, une trahison. De nouveau, je mets l'accent juste sur une phrase. Le Fils de l'homme s'en va, conformément à ce qui a été écrit à son sujet. Mais malheur à l'homme par qui le Fils de l'homme est trahi. Je vais juste faire une petite remarque ici sur l'appellation Fils de l'homme. D'une manière absolument claire, Jésus se désigne lui-même par cette formule un petit peu mystérieuse de Fils de l'homme. On pense que probablement Jésus utilise ce titre pour parler de lui-même en référence à un livre de l'Ancien Testament, au livre du prophète Daniel, où Daniel annonce la venue du Fils de l'homme. Le Messie, c'est le Fils de l'homme dans Daniel 7. Pour tout vous dire, tous les spécialistes ne sont pas toujours tous d'accord sur le pourquoi Jésus utilise cette formule pour lui-même. Probablement en référence à Daniel, mais on n'est pas tout à fait certain. Mais ce qui est sûr, par contre, c'est que juste dans l'évangile de Matthieu, Jésus utilise à peu près une trentaine de fois ce titre. Et à chaque fois, c'est pour se désigner lui-même. Donc, d'une manière absolument flagrante, Jésus parle de lui-même quand il parle du Fils de l'homme. Ce qui nous intéresse ici, c'est cette scène, pour le moins un petit peu étrange, moi je trouve. Jésus sait qu'il y a un traître parmi ses disciples. Et il sait même qui est ce traître. Il le démontre avec cette histoire de mettre la main dans le plat. Et on a là une réalité qui devrait normalement pas exister du tout. Je ne sais pas si vous avez déjà pensé à ça, parce que, en fait, par essence, la traîtrise ne fonctionne pas si elle est découverte avant qu'elle soit mise à exécution. Je m'explique par un petit exemple. Si un ami me confie un secret, je peux choisir de garder le secret ou de trahir le secret. Mais si cet ami sait d'avance que je vais trahir le secret, ben, il ne me révèle pas le secret. Et puis en fait, la trahison ne peut juste pas avoir lieu puisque c'est impossible. C'est un petit peu ce qui se passe ici. Jésus, sachant très bien qui est Judas, il choisit malgré tout dans l'équipe de ses plus proches disciples. Jésus, sachant très bien à ce moment-là ce qu'il y a dans le cœur de Judas, le garde avec lui dans l'équipe. Enfin, il y a un côté un peu hallucinant que Jésus dit. En fait, Judas a déjà trahi Jésus et Jésus le dit à tout le monde devant les disciples. Il dit, je sais que c'est toi qui m'as trahi. Et pourtant, il le garde dans l'équipe. Pourquoi ? Parce que Jésus ne change pas son plan. Et par la trahison de son ami, Jésus explique deux aspects de nouveau de sa mission. Premièrement, je pense que justement, il nous démontre que sa mission, cette mission, c'est le fruit de sa volonté propre. Comme je l'ai dit dans l'introduction, Jésus ne subit pas cette trahison. Jésus a choisi cette trahison. Et on se rend compte que Jésus simplement reste fidèle à son plan. Il aime son peuple. Il aime son peuple si fort que sachant tout ce qui va se passer, sachant cette trahison, sachant les accusations, le procès et toutes ces choses-là de la part des responsables juifs, sachant ce qu'il y a dans le cœur de Judas à ce moment précis, il laisse les événements se produire. Pourquoi est-ce que Matthieu nous laisse avoir connaissance, prendre connaissance de ces faits à ce moment-là? Je crois que c'est simplement pour cette raison-là. Il voulait nous convaincre, nous, les disciples de Jésus qui allons vivre quelques millénaires plus tard, quelques siècles plus tard, il voulait nous convaincre que la crucifixion était le choix de Jésus. Ce n'était pas un choix facile. Ça a été dur. Mais c'était un choix nécessaire. Parce que Jésus savait que c'était le seul moyen pour nous sauver. La deuxième chose que cette scène, je crois, nous révèle, je crois que ça nous montre que Jésus n'est absolument coupable de rien. Jésus n'est pas pécheur. Jésus a pu mourir à notre place précisément parce qu'il n'est pas pécheur. Un pécheur n'aurait pas pu payer à la place d'un autre pécheur. En fait, si Jésus nous donnait sa justice, mais qu'il était pécheur, ben en fait, on ne recevrait pas sa justice, on recevrait son péché, et puis notre situation resterait exactement identique. Mais c'était un peu compliqué. Comment on fait pour accuser quelqu'un qui n'est pas pécheur, quelqu'un qui, dont on ne peut absolument rien blâmer? Il y a une seule possibilité, faut magouiller, faut mentir. Faut monter un plan pour justement réussir à faire tomber le juste. Ça nécessite des trahisons. Et ça a nécessité toute une série de trahisons, on va le voir hein, au travers du procès. Il a fallu des magouilles, des trahisons pour identifier Jésus, pour le capturer, pour l'accuser et pour le mettre à mort. Les autorités ont eu recours à plein de choses de ce style. Et en fait, la trahison de Judas est juste un élément dans tout ce montage pour faire tomber Jésus. Mais quoi qu'il en soit, par la trahison de son disciple, par la trahison de son ami, Jésus explique, premièrement, que sa mort est le fruit de sa volonté. Deuxièmement, qu'il est juste. Il est condamné injustement. Par la trahison de son ami, Jésus explique le sens de sa mort. Dernière scène, pendant le repas, ici on voit que par un symbole, Jésus explique le sens de sa mission. Par un symbole, Jésus explique le sens de sa mission. On est là dans ce qu'on appelle le moment où Jésus instaure la scène. Donc, C-E, accent grave, N-E. Ça peut paraître un peu pompeux de parler de la scène, de la sainte scène, on se dit, ouh là, ça appartient un peu au langage religieux, mais en fait, ça veut simplement dire repas. Le mot scène, ça veut simplement dire repas en latin. Il s'agit du dernier repas que Jésus a pris avant sa crucifixion. Et pendant ce repas, de nouveau, Jésus explique le sens de sa mission, le sens de sa mort. Encore une fois, je me focalise juste sur deux phrases. Deux phrases que vous connaissez peut-être, deux phrases qu'on lit régulièrement quand nous prenons la scène en souvenir de ces événements. Une fois par mois, Jésus dit ici, enfin, il associe ici le pain avec son corps, le vin avec son sang. Et puis, il nous donne un petit mot d'explication à ce sujet. Il nous dit que le sang est le sang de la nouvelle alliance qui est versé pour beaucoup, pour le pardon des péchés. Ça nécessite quelques explications. Encore une fois, Jésus explique ici le sens de sa mort. Il nous donne de nouveau deux grandes informations, je crois, par cette annonce. Premièrement, il nous dit que ce sang, son sang, est le sang d'une nouvelle alliance. Cette phrase, elle peut nous paraître un petit peu obscure. On se demande qu'est-ce que ça signifie. Mais en fait, c'est assez énorme pour les disciples à l'époque. Je vous explique. Dieu a fait des alliances à travers toute l'histoire, dans toute la Bible. Si vous lisez l'Ancien Testament, vous voyez que Dieu fait des alliances. Il fait des alliances avec, il fait une alliance avec Adam, avec Noé, avec Abraham, avec Moïse et j'en passe. Il fait toute une série d'alliances. Mais le constat terrible Et le suivant, c'est que les hommes n'ont jamais réussi à respecter les clauses des alliances que Dieu a posées. Quand on lit l'Ancien Testament d'un bout à l'autre, on fait le constat que c'est mort. C'est impossible. Impossible de nous maintenir dans une alliance avec Dieu. Il y a juste un petit espoir. Un petit espoir qu'on peut lire chez le prophète Jérémie. Jérémie, lui, il nous annonce, enfin il annonce à ses contemporains, 800 ans avant Jésus-Christ, il annonce de la part de Dieu une alliance nouvelle, une alliance différente, une alliance qui serait basée sur le pardon des péchés. Et Jésus, ici, donc quelques siècles après Jérémie, il dit que son sang est le sang de la nouvelle alliance. Au même titre que le sang des animaux était l'élément nécessaire dans l'ancienne alliance, le sang de Jésus est l'élément nécessaire pour le pardon des péchés dans la nouvelle alliance. Jésus montre clairement, par ses paroles, qu'il vient apporter cette nouvelle alliance attendue par tout Israël depuis des siècles, depuis l'époque de Jérémie. La deuxième chose que Jésus nous dit ici, qui nous montre ici, c'est qu'il apporte justement le pardon des péchés. Nous sommes pécheurs. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, donc à cause de notre péché, nous sommes destinés à la colère de Dieu. Mais Jésus nous pardonne. Grâce à son sang, il nous pardonne. Par sa mort, il échange sa vie contre la nôtre. Un peu comme une rançon. C'est une mort qui donne la vie. Il nous rachète. Il nous adopte. Il nous justifie, il nous sanctifie, il nous sauve, il nous pardonne, il nous purifie, il nous vivifie, il nous habite et nous équipe. Jésus fait ça. Il fait ça par son sang. Et du coup, par ce symbole de la scène, Jésus explique qu'il nous offre une nouvelle alliance dans laquelle nous recevons le pardon des péchés. Par ce symbole, Jésus explique le sens de sa mission. Avant sa mort, Jésus explique le sens de sa mission, ça c'était le titre de cette prédication. On a vu beaucoup de choses en 35 versets. Avant sa mort, Jésus annonce son sacrifice, il annonce la libération du péché, il montre la valeur extrême de sa mission et la priorité ultime de cette mission. Il nous montre qu'il a choisi lui-même la crucifixion. Il n'a pas subi, mais il a choisi sa mort. Il nous montre qu'il va être condamné injustement, étant donné qu'il est parfaitement juste. Il nous montre qu'il inaugure une nouvelle alliance, rendue possible par le pardon des péchés. Ça fait pas mal de choses, n'est-ce pas ? 35 versets, ça fait pas mal de choses, mais on pourrait juste le résumer dans cette phrase, hein, avant sa mort. Jésus explique le sens de sa mission. Et en fait, il y a 8 points dans cette prédication. Ça fait pas mal, hein, 8 points. J'aimerais qu'on puisse être honnêtes les uns avec les autres. Hein. Demain matin, on se rappellera probablement de 0 de ces points. Peut-être 1, allez, vite fait. Hein. En tout cas, on aura oublié une grosse partie de ce que j'ai dit. Et croyez pas que je vous blâme pour ça, parce que je suis exactement comme vous, moi aussi. Quand j'entends une prédication, en général, le lendemain matin, j'ai oublié à peu près 90% de ce qui a été dit. Donc j'aimerais vous déstresser ce matin. C'est pas grave. Vous avez le droit d'oublier tout ce que j'ai dit. Même juste après, quand j'aurai terminé, là, vous pourrez oublier tout ça. Mais quand même, j'aimerais qu'on puisse garder quelque chose de cela. Au lieu de retenir les quatre tableaux, les quatre points, et puis les 8 sous-points de la prédication, j'aimerais vous proposer une toute autre application de cela. Dans 3 semaines, c'est Pâques, mes amis. Jésus a accompli la plus grande mission de l'histoire. Il nous l'explique dans ce chapitre. Il nous explique qu'il nous sauve. Et ce que j'aimerais vous inviter, c'est qu'on puisse juste prendre le temps dans ces 3 semaines pour méditer ça en profondeur. Je ne sais pas qui vous êtes. Je ne sais pas ce que vous avez compris de ce que Jésus a fait sur cette croix. Je ne sais pas si vous savez ce que Pâques signifie. Je ne sais pas si vous comprenez pourquoi ce message de l'évangile est central pour votre vie, mais que vous le compreniez ou non, que vous ayez une vue globale de tout cela, ou peut-être pas encore, je crois que c'est important de faire une petite pause dans la vie pour se souvenir de ces choses-là, pour se recentrer sur ces choses-là. Et j'aimerais vous inviter, en fait, pour les 3 semaines qui viennent, là, donc les 4 dimanches qui viennent, juste à passer en mode Pâques. Tu sais, comme les smartphones, tu les passes en mode avion, des fois. nous, on va passer en mode Pâques. Que vraiment, pendant ces 3 semaines, simplement, enfin, je ne vais pas vous dire de faire ça le matin de 7h à 8h, ou je ne sais pas quoi, ou de lire des textes bibliques, ou, enfin, je ne vous propose rien de spécial. Mais juste que nos pensées puissent être orientées sur la mort et la résurrection de Jésus. Prenons du temps pendant ces 21 jours qui sont devant nous pour méditer le sens de ce que Jésus a accompli. Une petite pause méditative de 21 jours. Je ne dis pas d'arrêter vos activités, pas du tout, sinon votre patron va m'écrire une lettre et ça va mal se passer pour moi. Faites tout comme d'habitude, mais simplement en mode Pâques. Simplement en ayant ça à l'esprit, quand vous êtes dans votre voiture ou en train de vous brosser les dents ou au travail ou que sais-je, qu'on puisse être émerveillé de ce message de l'Évangile, qu'on puisse être dans la paix et la joie de ce que Jésus a fait pour nous. Qu'on puisse aussi peut-être, si vous êtes encore sceptique ou si vous avez des doutes, qu'on puisse prendre ce temps aussi pour nous poser les vraies questions. Pour nous interroger nous-mêmes sur la vérité de ce message. Puis aussi pour que ces vérités puissent nous pénétrer profondément afin qu'elles rayonnent autour de nous, afin que d'autres voient ces vérités au travers de nos vies. Avant sa mort, Jésus explique le sens de sa mission et j'aimerais qu'on puisse méditer cela pendant les 3 semaines qui sont devant nous. Je vais encore prier. Seigneur, merci pour ta parole, merci pour ce texte clair, merci parce que c'est bienfaisant de comprendre le sens de ta mission. Merci parce que t'es venu à Pâques il y a 2000 ans, merci parce que t'es mort sur cette croix, merci parce que t'as pris notre péché, tu nous as donné ta justice, merci parce que t'es ressuscité 3 jours plus tard, vainqueur sur la mort. Seigneur, aide-nous maintenant à envisager, à nous approcher de cette période de Pâques avec ce temps spécial de méditation et ce temps spécial où on va être imprégné de ces vérités. Aide-nous à vivre ça comme vraiment l'élément central de nos vies, Père. Et je te prie que voilà, pour ces 21 jours qui sont devant nous, on soit travaillé, on soit profondément encouragé par ce message. Transforme-nous à la lumière de l'Évangile. Je te demande ça pour ta gloire et dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.